Alors, bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 28 mars 2018. Monique Kirouac à l'animation aujourd'hui, seule en studio, mais en fait, pas tout à fait seule, puisque Mathieu est là, qui veille à la mise en onde, au choix musical et qui m'accompagnera dans la lecture d'un article.
Tout à fait.
Nous souhaitons bien sûr à Marie et Yvan... bon week-end de Pâques, ils nous ont laissé tomber, mais bon, ils seront en famille, alors on espère qu'ils vont s'amuser grandement. Alors, comme il est de coutume...
Que vas-tu nous lire ce matin?
Alors, je vais vous lire quelques articles. Vous allez devoir tolérer Monique au micro. Alors, un premier article sur l'impact du ou des sourires, spécialement dans des situations un peu stressantes. Un deuxième sur les choix qu'ont à faire les orthopédistes et les cardiologues lorsqu'ils nous implantent des objets dans notre corps. Mais en fait, est-ce bien eux qui ont des choix à faire ou le patient qui devrait s'insérer dans tout ça? Ensuite, avec l'aide, l'appui de Mathieu, une conversation avec Yves Coppen, celui qui a, entre autres, co-découvert Lucie, la grand-mère de l'humanité dont on a déjà parlé. Un quatrième article que je lirai en deux parties sur le sable. Vous vous demandez peut-être pourquoi le sable? Il y en a partout.
Ben, c'est pourquoi le sable, Monique?
Oui, ben écoute, on sous-estime cette matière-là. Vous allez voir, c'est fort intéressant de découvrir ça, comment c'est précieux, en fait, combien c'est précieux. Et ensuite, une série de plus courts articles sur des découvertes tout à fait intéressantes et parfois surprenantes. On parlera de méditation, de tortues vertes et de plantes lumineuses. Alors, à tout de suite! Alors, le sourire. Un texte d'Alain Labelle pour le site Info Radio-Canada du 7 mars 2018 qui s'intitule « Un sourire qui vaut mille mots ». Alors, tous les sourires n'expriment pas que de la joie ou du bonheur. Ils sont parfois associés à la dominance ou au pouvoir et nos corps réagissent différemment selon le message perçu. Ainsi, des psychologues américains et israéliens ont montré que le sourire associé à la dominance mène à une forte réaction physique. En fait, le corps des destinataires de ces sourires réagit et voit une augmentation d'hormones associées au stress. De l'autre côté, les sourires associés à la récompense ou au renforcement d'un comportement semblent servir de tampon contre le stress pour ceux à qui ils sont destinés. Les expressions faciales mènent réellement le monde, nous le savions, mais il n'y avait pas beaucoup de science qui le prouvait, nous dit Jared Martin de l'Université du Wisconsin-Madison. Ces travaux montrent que les différences subtiles dans vos expressions faciales pendant que vous discutez avec quelqu'un peuvent fondamentalement changer son expérience, ses réactions corporelles et la façon dont il perçoit que vous l'évaluez. Dans ces travaux, trois types de sourires ont été évalués. Le sourire de dominance, qui est lié au pouvoir et au statut. Celui de d'affiliation, qui communique un lien et montre que vous n'êtes pas une menace, et le sourire de récompense, le grand sourire que vous donnez à quelqu'un pour lui faire savoir qu'il vous rend heureux. Les chercheurs ont donc testé la réaction de 90 étudiants masculins qui devaient donner une présentation orale devant une webcam à des juges et d'autres camarades de classe qui participaient aussi à l'étude. Pendant leur présentation, les participants ont pu apercevoir de brefs extraits de réactions des juges, mais chacune des vidéos avait été préenregistrée et représentait un type de sourire. Dans ces présentations, les chercheurs surveillaient la fréquence cardiaque des présentateurs et prélevaient périodiquement des échantillons de salive pour mesurer la présence de cortisol, une hormone associée au stress. À cet égard, il y a des recherches qui ont été faites à l'Université de Montréal sur justement la production de cortisol et l'adéquation de gens stressés. Alors, plus on en produit, c'est qu'on est de plus en plus stressé. Parenthèse fermée. D'un autre côté, s'ils recevaient des sourires de récompense, les orateurs les associaient à une approbation. Et cela les empêchait d'être stressés et de produire du cortisol. L'effet des sourires d'affiliation se rapprochait de ceux de récompense, mais les résultats étaient plus difficiles à interpréter. Les auteurs estiment que le message d'affiliation, dans le contexte de jugement, était probablement plus difficile à percevoir pour les présentateurs. En outre, les participants dont le rythme cardiaque variait le plus montraient des réactions physiologiques plus fortes aux différents sourires. Mais les chercheurs affirment que la variabilité du rythme cardiaque peut être influencée par d'autres facteurs qui vont de l'obésité à l'anxiété, en passant par la dépression. À cet égard, ces facteurs peuvent entraîner une diminution de la variabilité du rythme cardiaque. Ils peuvent rendre les personnes moins susceptibles de reconnaître les signaux sociaux tels que la domination et donc d'y réagir. Ces choses que nous portons en nous changent notre façon de percevoir le monde, nous dit Jarrett Martin, notre chercheur de Wisconsin-Madison University. Les résultats de l'étude montrent que les sourires ne constituent pas nécessairement une rétroaction non-verbale positive et qu'ils peuvent influer sur les interactions sociales en affectant la réaction physiologique des personnes qui les perçoivent. Le petit échantillon de participants, on se rappelle qu'il y en avait 90, exclusivement masculin, limite bien sûr la possibilité de généraliser ces résultats. D'autres recherches sont nécessaires pour déterminer si les hommes et les femmes réagissent différemment au même type de sourire. Si vous voulez en savoir plus, eh bien le détail de ces travaux est publié dans Scientific Reports. Et c'était donc un texte d'Alain Labelle pour le site InfoRadio Canada du 7 mars 2018.
Je suis un chien de bord de mer, copain poilu des vacancières. Les enfants jouent à me faire courir, les voir heureux ça me fait sourire. On lance des balles ou des bouts de bois que je rapporte à chaque fois. Fierté canine dans l'eau salée, tous aux abris je vais me secouer. Pourquoi la mer goûte pas la pluie, c'est désolant. Toutes les larmes de la terre baignaient dedans. Oui, andelie, pourquoi la mer goûte pas la pluie, c'est désolant. Comme si toutes les larmes de la terre baignaient dedans. Je ne suis le meilleur ami de personne, fidèle à celui qui me donne un bout de pain lancé en l'air, un peu de bonheur au bord de la mer.
Deuxième article. Alors, c'est un article de Martin Lassalle pour le journal Forum du 29 mars 2018 qui s'intitule « Comment les orthopédistes et les cardiologues choisissent-ils les dispositifs qu'ils vous implanteront ?» C'est pas un texte, c'est pas un titre très court. Hein? Alors, les orthopédistes et les cardiologues sont soumis à différentes contraintes lorsque vient le moment de choisir les dispositifs qu'ils implanteront à leurs patients. Et cela selon une étude de Mme Pascale Lehoux, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Chez le garagiste, il est normal que vous demandiez au mécanicien s'il réparera votre véhicule avec une pièce d'origine ou de rechange. Or, dans le cabinet d'un orthopédiste ou d'un cardiologue, rares sont les patients qui cherchent à savoir si le dispositif qu'on leur implantera sera optimal pour eux. C'est un message qu'on nous lance, chers auditeurs. Pourtant, les implants, les prothèses, les stimulateurs cardiaques, les barres de métal et les vis, bref, toute la quincaillerie qui reste dans le corps après une chirurgie peut comporter des avantages, mais aussi entraîner des effets indésirables, parfois importants, que les patients devraient connaître à l'avance. C'est une bonne idée de poser des questions à notre chirurgien pour être bien informé et faire des choix éclairés et trouver quel dispositif convient le mieux à notre situation, suggère Mme Lehoux de l'ESPUM, comme je disais, de l'UdeM. Madame Lehoux formule cette recommandation à la lumière des résultats d'une étude réalisée par Anna Gagliardi de l'Université de Toronto, à laquelle elle a pris part. Ces résultats mettent en lumière les contraintes qui limitent ces spécialistes dans le choix des appareils qu'ils implanteront. Les entrevues de fond, organisées et menées auprès de 10 cardiologues et de 12 orthopédistes, répartis dans 5 provinces canadiennes, ont permis à Pascal Lehoux et à ses collègues de relever 5 types de contraintes. La première découle du manque de preuves scientifiques quant à l'innocuité des dispositifs. Innocuité, c'est-à-dire ce qui ne provoque pas d'effets néfastes, et aux complications qui peuvent survenir. Lorsque de nouveaux appareils arrivent sur le marché, certaines données permettent de savoir s'ils sont sécuritaires. Mais comme on est en phase expérimentale, on n'a pas encore pu déterminer des effets indésirables ou des complications à long terme, explique toujours la professeure. Les spécialistes se tournent alors vers des collègues qui ont expérimenté avant eux les dispositifs en question. Deuxième contrainte, elle est liée aux facteurs anatomiques du patient, sa taille, son âge, dont les orthopédistes et les cardiologues tiennent généralement compte, mais pas toujours. Par exemple, en cardiologie, si un patient est plutôt jeune, on ne choisira pas nécessairement un stimulateur cardiaque qui réduira le nombre d'interventions destinées à changer la pile. Cette décision ne sera pas prise avec le patient. Il y a également des médecins qui ont tendance à n'utiliser que les appareils avec lesquels ils ont été formés et qui leur sont familiers. Ils se fieront davantage à leurs collègues dans une situation où ils doivent employer un dispositif plus récent. Les facteurs organisationnels et systémiques sont le troisième type de contrainte. Les politiques d'achat groupées limitent la gamme des produits que peuvent obtenir les chirurgiens et ils créent une ambiguïté. C'est bien si ces achats de groupe permettent de se procurer les meilleurs dispositifs à meilleur coût. Mais pas du tout s'ils restreignent l'éventail des produits pour économiser de l'argent. Enfin, la cinquième et dernière contrainte a trait au rapport délicat qu'entretiennent les spécialistes avec les représentants des entreprises qui, au cours des 15 dernières années, ont lancé plusieurs nouveaux dispositifs médicaux sur le marché. Bien qu'ils détiennent beaucoup d'informations, les représentants ne sont pas neutres, indique Mme Lehoux. Des relations de confiance à long terme peuvent s'établir lorsqu'il s'agit d'un produit complexe qui requiert une information transparente quant aux risques qu'il présente, mais ce n'est pas forcément le cas pour les dispositifs moins complexes. Alors, selon Pascal Lehoux, les politiques publiques peuvent parfois être encombrantes, mais elles sont là pour qu'on innove de façon responsable et qu'on parvienne à des données probantes qui éclairent les choix médicaux. Néanmoins, si le choix d'un dispositif à implanter ne paraît pas toujours optimal pour le patient, le risque que celui-ci subisse des effets indésirables graves est faible, selon les résultats de l'étude et ce qui nous rassure, vous en conviendrez. Toutefois, les conséquences d'un mauvais choix peuvent s'avérer dévastatrices si, par exemple, la pose d'une prothèse de la hanche provoque une infection grave qui oblige à réopérer le patient. Madame Lehoux conclut en précisant que c'est pourquoi nous croyons que les patients doivent poser des questions et que les médecins doivent, par un dialogue plus ouvert, établir un lien de confiance plus solide avec le patient qui est appelé à devenir de plus en plus partenaire. On parle d'ailleurs du patient partenaire maintenant. Les nouvelles générations de chirurgiens sont d'ailleurs maintenant formées à cet effet. Alors voilà, c'était un article de Martin Lassalle pour le journal Forum du 23 mars 2018.
Le travail, l'allergie, moi aussi. J'ai brûlé des machines, la cime de l'usine, les rouages de la politesse, l'horloge dans l'horloge. L'allergie, moi aussi, je peux. L'hiver, je peux moins.
Eh oui, Urbain des Bois, ma maison travaille plus que moi.
Ah!
Chose qui arrive.
Mais je crois pas.
Non?
Je te crois pas. Non, pas du tout. Alors, sous la plume de Rachel Mulot, pour la revue Science et Avenir de février 2018... Un article qui s'intitule, en fait, ce sont des propos recueillis par Madame Mulot auprès de Yves Coppens, donc qui se raconte. C'est un globe-trotter infatigable, homme d'intuition et grand conteur. Peut-être l'avez-vous entendu d'ailleurs aux années-lumière. C'est le paléo-anthropologue qui s'est passionné pour les mammouths et il est aussi le co-découvreur de l'Australopithèque, Lucy, celle que l'on appelle la grand-mère de l'humanité. Il a aussi mis en lumière de la façon dont le climat a influencé notre évolution. Alors, ses propos, c'est un retour sur sa vie exaltante, entre autres à l'occasion de la publication de ses mémoires, mémoires qui s'intitule « Origine de l'homme », origine avec un S, et origine d'un homme. Alors peut-être serez-vous intéressé à la lecture de ce livre par la suite. En fait, on le souhaite. Alors Mathieu me posera les questions
oui.
Et je répondrai en lieu et place de M. Coppens.
D'accord. Première question, comment avez-vous contracté l'archéologite, cette passion pour l'archéologie et la préhistoire?
Alors écoutez, j'étais fascinée par les menhirs, les vestiges gallo-romains qui m'entouraient en Bretagne. Tout jeune, je léchais les vitrines des musées et des sociétés savantes, comme la Société polymathique du Morbihan, qui m'a ouvert sa bibliothèque à Vannes dès mes 10 ans en 1944. Ma première fouille avec l'un de ses membres, cette même année, a été une révélation. Et je n'ai jamais cessé dès lors de courir les landes bretonnes pour chercher des bouts de cailloux et de poteries. Et je suis devenue pour mes camarades de classe, en fait, le coco le fossile.
Coco le fossile.
Coco le fossile.
D'accord. Quelle a été votre première émotion de chercheur à l'âge de 20 ans?
Alors, j'étudiais alors à Rennes. Je fouillais pendant toutes mes vacances. Un jour, avec la direction des antiquités préhistoriques, nous nous sommes attaqués à une butte sur l'île de Carnes, dans le Finistère. Nous avons dégagé une sorte de coffre de pierre dont l'un des pans sonnait creux. Nous avons pratiqué une ouverture et, comme j'étais le plus mince, j'ai eu le privilège d'entrer le premier. Et ce, dans une tombe inviolée depuis 7000 ans. C'était la chambre sépulcrale intacte d'un domaine à la voûte de granit. Alors j'ai hurlé mon bonheur.
Vous rêviez d'hommes préhistoriques. Comment vous êtes-vous retrouvé à étudier les mammouths et les éléphants?
Oui, c'est vrai qu'il y a un petit écart, hein, de
gros... Oui, certains pourraient considérer, oui.
Alors, après mon arrivée à Paris, Jean Pifto, qui est paléontologue à la Sorbonne, m'a courtoisement expliqué que les fossiles humains étaient rares et que ceux qui les détenaient n'étaient pas enclins à les prêter, et ce, surtout à de jeunes chercheurs. Et il m'a suggéré de choisir entre les rongeurs et les proboscidiens, c'est-à-dire les porteurs de trompes, deux groupes qui évoluent beaucoup. J'ai sauté sur les gros animaux. J'ai ainsi disséqué Micheline, une éléphante qui venait de mourir aux eaux de Vincennes, découvert des mastodontes en Afrique et peigné le mammouth en Sibérie. En 1998, Bernard Buig, organisateur de voyages en terre polaire, m'avait en effet demandé d'expertiser Jarkov. C'est un grand mâle dont on avait retrouvé les défenses longues de près de 3 mètres. En creusant la toundra gelée pour dégager son cadavre, je suis tombée sur de belles touffes de poils auburn. Quel émoi ! J'ai caressé la toison de l'animal fossile, disparu il y a 20 000 ans.
Comment êtes-vous parti fouiller en Afrique en 1960?
Toujours grâce aux éléphants. Lorsqu'on m'a confié l'étude de caisses de vertébrés fossiles du Tchad, vieux de 1 à 5 millions d'années, j'ai demandé à aller sur le terrain. Et depuis toujours, l'Afrique hantait mes rêves et ce continent ne m'a jamais déçu. Oui?
Excusez-moi. Comment vous êtes-vous retrouvé sur les traces de Lucie, la plus célèbre des préhumaines?
En fait, c'est grâce à Camille Arambourg qui m'a ouvert le terrain éthiopien. Paléontologue du Muséum national d'histoire naturelle, baroudeur infatigable, il m'a en quelque sorte adopté comme son premier élève à plus de 80 ans. Nous avons monté, pour le côté français, une expédition internationale dans la vallée de l'Omo, O-M-O, au sud-ouest du pays. Je lui ai consacré 10 ans de ma vie et acquis sur place la certitude que l'humain, Homo, mais cette fois-ci avec un H, a été façonné par son environnement. Mais parallèlement, mon ami, le géologue Maurice Taïeb, a découvert à l'est du pays des gisements très prometteurs qui fleuraient bon le préhumain. Avec les Américains Donald Johanson et John Kalb, nous avons donc monté en 1972 l'International Afar Research Expedition, décidant d'en être tous les co-directeurs. Chaque campagne a livré sa moisson d'hominidés fossiles jusqu'à Lucie en 1974, dont le premier morceau a été déniché par Tom Gray, un étudiant de Johanson. Le plus excitant a été de découvrir au fur et à mesure que nous collectionnions les ossements qu'il s'agissait d'un seul individu. Lucie, âgée de 3,2 millions d'années, était le fossile le plus complet de son époque et nous avons pu en reconstituer la silhouette, ce qui explique que le public l'ait adopté comme une grand-mère de l'humanité.
Pourquoi estimez-vous très rapidement ou très vite, contrairement aux autres découvreurs, que Lucie ne pouvait pas être notre ancêtre?
En fait, c'est en étudiant ses bras et son genou que mes étudiantes, Brigitte Sénoux et Christine Tardieu, ont montré dès 1978 qu'elle était certes bipède, mais toujours arboricole. Bref, elle grimpait aux arbres. Or, dans l'Homo, OMO, nous avions trouvé des restes humains de près de 3 millions d'années appartenant à de meilleurs bipèdes. Il m'a semblé que la transition entre ces formes de locomotion ne pouvait pas s'être faite aussi rapidement. Selon moi, Lucie était au plus une arrière-cousine.
Et quel message adressez-vous à la jeunesse, vous qui avez rédigé la charte de l'environnement adossée à la Constitution?
Alors, cher ami, si le climat nous a façonnés, c'est nous qui l'influençons aujourd'hui avec nos industries polluantes. L'Antarctique fond, l'Arctique fond, les eaux montent et les humains, dont le nombre a explosé, vont devoir quitter les côtes inondées. Nous devrons faire face à un nombre croissant de réfugiés climatiques et sinon, l'autre recommandation, c'est faites de la science. N'en ayez jamais peur. La science est merveilleuse et vous comblera de bonheur. Alors, les propos étaient colligés par Mme Rachel Mulot pour la revue Science et Avenir de février 2018. Merci Mathieu. Alors, Voix de service magazine se poursuit après la pause et je pense une petite chanson. Et à la suite de cette pause, on vous parlera de sable, de méditation, de plantes lumineuses et de tortues vertes. Alors, revenez-nous tout de suite après la pause.
Aguicheuse me laisse froid. Même moi, qu'est-ce tu crois? Je suis un ange, que ça me démange pas un peu. Déteste-moi, mon amour. J'aimerais ça, pas toujours, mais un peu. Mais me jette pas, je suis consigné chez toi. Me jette pas, ou jette-toi avec moi. J'ai panié, pris la main dans le panier, j'ai avoué. J'ai pas dit, c'est pas moi, cette fille je la connais pas, et je la connais. Après tout, tu t'en fous, tu savais que la vie est dégueulasse. Que l'amour dure toujours, et que c'est là qu'est parfois l'angoisse. Mais me jette pas. N'existe pas sans moi, me jette pas, ou jette-toi avec moi. T'as raison, les hommes sont des salauds, des pas beaux, c'est pour ça que je préfère les nanas, je les préfère un peu trop, quelquefois. Tu me dis que toi, ce que t'aimes pas, c'est le mensonge, que ça te ronge et que tu meurs. Moi c'est la vérité que je trouve triste à pleurer, je pleure, mais me jette pas, je me ferai tout petit, tout plat, me jette pas, ou jette-toi avec moi. Y a phalanges sur cette terre, à part dans les cimetières, les églises. Y'a que des types comme il faut, avec leurs bites, leurs couteaux sous la chemise. J'suis qu'un mec, fais avec, mais fais pas comme moi, mon amour. Ou à peine pour te venger, mais sans haine, sans regret, sans amour. Me jette pas, moi non plus je m'aime pas, me jette pas. Jette-toi avec moi, me jette pas. N'existe pas sans moi, me jette pas. Ou jette-toi avec moi, me jette pas. Je suis consigné chez toi, me jette pas. Ou jette-toi avec moi, me jette pas. Je me ferai tout petit, tout plat, me jette pas. Jette-toi avec moi, me jette pas. Moi non plus je m'aime pas, me jette pas. Ou jette-toi avec moi, me jette pas. N'existe pas.
Renaud et sa chanson « Me jette pas ».«
Me jette pas dans le sable », c'est ça?
Exactement.
Ah, voilà, parce que je vais vous parler du sable. C'est un article de Vincent Nouiriga pour la revue Science et Vie de novembre 2017 qui s'intitule « La guerre du sable ». C'est une ressource que l'on croirait volontiers infinie. Une ressource a priori tellement abondante et omniprésente à la surface de la Terre qu'elle ne devrait poser aucun problème à l'humanité, à la grande différence des hydrocarbures et des métaux. Et il faut dire que le matériau en question paraît bien dérisoire, n'est-ce pas? Le sable. Tout bêtement, le sable. Comme celui qui sert à faire de gros pâtés sur la plage ou que l'on chasse rageusement de nos chaussures au retour d'une balade. Autrement dit, de banals petits grains de quartz issus de l'érosion millénaire des montagnes. Intéressable, dérisoire, sans enjeu, la réalité est en fait tout autre. Le monde entier s'arrache ses gravillons à coups de corruption, menaces physiques, dilapidation des ressources et ravages écologiques. Un tableau qui rappelle furieusement les dérives de l'or noir. En mission en Jamaïque, j'avais entendu parler d'hommes armés qui venaient la nuit piller le sable des plages, raconte Pascal Peduzzi, qui est directeur scientifique du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Au début, je n'y ai pas cru. Comment peut-on menacer la vie des gens juste pour du sable? Eh bien, il s'est avéré ensuite que le phénomène se produisait dans beaucoup d'autres pays. Ce sable, plus ou moins grossier, déclenche même de vives tensions, entre autres en France. Après des décennies d'ignorance ou d'indifférence, scientifiques et défenseurs de l'environnement commencent enfin à se pencher sur les folies de l'or blond. J'ai émis un premier rapport d'alerte en 2014 sur cette question émergente, dont le titre était « Le sable plus rare qu'on ne le pense ». Il faut bien prendre conscience qu'il s'agit là d'une ressource finie et non renouvelable à l'échelle humaine. D'après mes estimations, les quantités de sable prélevées dans le monde chaque année représentent entre 3 et 5 fois les quantités charriées par les rivières de la planète. Car aussi discret soit-il, le sable est un ingrédient fondamental de nos sociétés modernes. Le béton, dont on fait les bâtiments et les ponts, eh bien, 75% de sable. Les vitres, 65% de sable fondu. Les enrobés routiers et les remblais, essentiellement du sable. Les panneaux photovoltaïques et les circuits informatiques,
Idem. Les peintures, les cosmétiques, les lessives, le papier, ils contiennent jusqu'à la moitié de sable. Nous vivons, étudions, travaillons, voyageons entourés de sable transformé. Qu'on le veuille ou non, c'est la deuxième matière la plus consommée dans le monde, juste après l'eau et loin devant le pétrole. Et ces minéraux constituent, avant même les métaux, des ressources clés pour les pays en développement. À raison de 200 tonnes de sable pour la construction d'une maison individuelle et de 20 à 30 000 tonnes pour le moindre kilomètre d'autoroute, l'appétit de notre civilisation est devenu insatiable. L'Inde aurait ainsi multiplié par 3 sa consommation de sable depuis l'année 2000, et la Chine aurait englouti ces 4 dernières années autant de granulats que les États-Unis durant tout le 20e siècle. Assez effarant, n'est-ce pas? Cette consommation mondiale, folle, oui, il faut la qualifier de folle, est tirée notamment par l'urbanisation en cours sur les continents asiatiques et africains, de plus en plus d'humains habitant dans de grands immeubles en hauteur et très gourmands, bien sûr, en béton et en verre, donc en sable. Et l'ONU prévoit 2,5 milliards d'urbains supplémentaires d'ici 2050. Songez aussi que la Chine construit en ce moment environ 150 000 km de nouvelles routes asphaltées par an. Ajoutez-y les digues et remblais élevés pour protéger les nouvelles villes asiatiques de la mousson, ou encore les terrains gagnés sur la mer grâce à des montagnes de granulats. Le territoire de Singapour s'est ainsi agrandi de 23 % depuis les années 1950. Sans oublier les délirants gratte-ciels et autres îles artificielles bâties dans les pays du Golfe grâce à des centaines de millions de tonnes de sable, écoutez-moi bien, massivement importés d'Australie ou d'Inde. Alors, des pays couverts de dunes obligés d'importer du sable? Eh oui! Produire du béton ou du verre ne se fait pas avec n'importe quel sable. La fabrication de verre, suffisamment transparent, exige des sables peu contaminés en oxyde de fer. Les gisements très purs sont donc très rares et font parfois l'objet de spéculations. Or, le sable des déserts est aussi impropre à la fabrication du béton. Ces grains, brassés par le vent, sont en l'occurrence trop fins. Leur taille est très inférieure au millimètre, alors que nous recherchons des grains de 2 à 4 millimètres. Quand les grains sont trop petits, leur mise en place dans le béton réclame des quantités d'eau excessives qui nuisent à la résistance mécanique du matériau. On va prendre une toute petite pause et je vous reviens pour la suite. Alors, nous reprenons la lecture de cet article. Pour ne rien arranger, le sable du désert est donc trop homogène. Un béton, apprend-on, doit comporter différentes tailles de grains, les plus petits comblant les interstices entre les plus gros pour assurer la compacité du béton, gage de résistance et de durabilité. Les grains de quartz aux propriétés idoines se trouvent en fait dans le lit des fleuves, des deltas et sur les rivages. Là, ils deviennent la proie des hommes équipés de simples pelles ou de bulldozers dernier cri. Les cas d'exploitation brutale sont nombreux, trop nombreux. À l'image de l'extraction effrénée dans le lac Poyang, plus grand lac d'eau douce de Chine, aux écosystèmes précieux. Selon une récente étude publiée dans le Journal of Hydrology, les ravines formées par cette activité ont multiplié par deux la capacité de décharge du lac vers le fleuve Yangtze, entraînant des niveaux d'eau extraordinairement bas à la saison sèche. Les cours d'eau sont aussi des cibles faciles. L'extraction de sable dans les fleuves déstabilise leurs berges et les infrastructures qui y sont implantées. Elles abaissent aussi le niveau des nappes phréatiques et modifient donc la dynamique des ondes de crue. Poissons et dauphins d'eau douce en prennent évidemment pour leur rhume dans ces eaux rendues troubles. Et la liste des ravages est encore longue, comme cette vingtaine d'îlots indonésiens qui auraient littéralement disparu de la carte sur le coup de pelleteuses venues alimenter en sable le développement récent de Singapour. Une ville qui se donne pourtant une image vertueuse tournée vers le développement durable. Au Maroc, le pillage clandestin des plages et des cordons dunaires est quasi généralisé. Sur les côtes du sud de l'Inde, sévissent de véritables mafias du sable dont les assassinats se comptent par centaines. C'est effarant. Et des extractions plus ou moins légales ont aussi lieu sur les plages d'Écosse, de Nouvelle-Zélande, du Japon et de Californie. Des plages disparaissent et les conséquences ne sont pas ne seulement touristiques, on s'en doute bien. Ces espaces constituent des sites de nidification des oiseaux côtiers qui ont besoin de conditions géomorphologiques très précises. Excusez-moi, je dois changer ma page. Donc,
votre tablette vous fait...
Elle me fait des siennes, oui, c'est ça, excusez-moi. Alors, face à cette tension, les industriels en sont venus à produire artificiellement des granulats en broyant des roches. Une activité très dépendante, donc, de la géologie locale, à l'impact paysager flagrant. Peu avare en explosifs et en camions de 50 tonnes traversant la campagne. Autant dire que cette option est de plus en plus difficilement acceptée. Il faut environ 10 ans maintenant de procédure, heureusement, pour ouvrir une nouvelle carrière. Un combat âpre s'annonce entre préservation de l'environnement et impérieuse nécessité de réunir des monceaux de sable pour assurer tout chantier d'ampleur, comme une gare, une route, un pont, un stade. Quand on sait que les travaux du Grand Paris devraient engloutir 5 millions de tonnes supplémentaires chaque année, et ce, sans compter les Jeux olympiques de 2024. Cette ressource nécessiterait une meilleure vision stratégique à l'échelle nationale. Les pouvoirs publics commencent à en prendre la mesure. Dans les documents d'urbanisme ou de la gestion régionale des carrières de granulats. Comme pour les métaux, le recyclage du sable est aussi sérieusement envisagé. Un vaste programme de recherche « Recy-béton » a été lancé en 2012, visant à récupérer le sable contenu dans les 17 millions de tonnes de béton démolies chaque année en France, avec l'objectif de réutiliser ces gravats dans des bétons de structure, et pas seulement des enrobés routiers, comme cela se pratique déjà en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ce recyclage massif reste pour l'instant un défi technique, car le sable recyclé absorbe beaucoup d'eau, ce qui cause un autre problème, puisque l'eau, c'est la première matière fragilisée dans le monde, ce qui nuit à la résistance mécanique du béton. Il ne faut pas sous-estimer les nouvelles possibilités offertes par les progrès techniques. Pourquoi pas un jour pouvoir exploiter les sables du désert. En attendant, on devrait préserver les matériaux alluvionnaires de haute qualité pour des usages nobles, comme la construction de grands ponts, d'hôpitaux ou d'écoles. Un changement de mentalité radical pour une ressource qui était jusqu'ici surconsommée avec la même avidité que le pétrole, le charbon, le cuivre ou le thon rouge, sans grande considération pour l'environnement. nous allons devoir changer nos modes de consommation du sable en raisonnant de manière plus circulaire, en allongeant la durée de vie de certaines infrastructures ou en privilégiant certaines options d'urbanisme. Par exemple, percer un tunnel permet de récupérer des granulats utilisables pour d'autres usages, nous dit Pascal Pedoudi. Bref, considérez enfin le sable comme une ressource précieuse et épuisable, donc une ressource de plus à protéger. C'était donc un article de Vincent Nouy-Riga pour la revue Science et Vie de novembre 2017. Et je m'excuse pour le petit silence dû à ma tablette. Alors, dans la foulée de la guerre du sable, le réchauffement, en fait, du sable, semble-t-il, féminise la population de tortues vertes. La grande majorité des tortues vertes qui évoluent au nord de la grande barrière de corail australienne sont désormais des femelles. Une conséquence, semble-t-il, directe du réchauffement climatique que l'on pourrait résumer ainsi. Plus le sable est chaud, plus il y a de naissances de femelles. En effet, la détermination du sexe a lieu au bout d'environ 15 jours après l'enfouissement des œufs dans le sable et dépend de la température. En dessous de 29 degrés Celsius, les mâles sont majoritaires. Au-dessus de 31 degrés Celsius, ce sont les femelles. L'espèce n'est pas forcément menacée pour autant, car les tortues vont s'adapter et iront pondre à des latitudes plus élevées. Alors, un petit article d'une minute environ sur la méditation qui nous donnerait en fait un bain de jouvence pour notre cerveau. Pour confirmer que la méditation intensive protège bien le cerveau âgé, une équipe INSERM de l'Université Caen Normandie lance l'étude, c'est bien français, Silver Santé. Et ainsi, 150 volontaires de plus de 65 ans, non méditants, vont pratiquer pendant 18 mois la méditation, l'anglais ou ne rien faire. On apprendra dans 18 mois pourquoi le mariage de ces trois éléments, parce que l'article ne nous le dit pas. Alors, et puis l'effet de ces activités sur le vieillissement cérébral sera mesuré. Cette étude est la suite de travaux qui ont été publiés par la même équipe en 2017 avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard qui se prête à ses recherches sur le sujet depuis plusieurs années. 6 méditants experts, dont M. Mathieu Ricard, ils sont experts parce qu'ils ont plus de 15 000 heures de pratique de méditation. Âgés de 65 ans en moyenne, ont passé des examens d'imagerie cérébrale comparés à ceux de non-méditants du même âge. Constat, eh bien, les experts présentent une moindre réduction du volume et du métabolisme du cerveau, effet reconnu du vieillissement.
Alors Yvan m'a confié une mission. Vous parlez de l'Association sportive des aveugles du Québec, l'ASAC, et qui est très fière d'organiser le programme du sport pour moi, et ce pour une 9e année consécutive. Ce programme vise à initier des enfants aveugles ou malvoyants, âgés de 6 à 14 ans, à différents sports, afin de contribuer au développement de leurs habiletés physiques et sociales. Une équipe d'entraîneurs spécialisés et de kinésiologues formés en technique d'intervention en déficience visuelle permet d'adapter la méthode d'enseignement à la clientèle et d'offrir des conditions sécuritaires et propices à l'apprentissage pour tous. Alors, hâtez-vous, car la période d'inscription est du 20 mars au 3 avril. Il vous reste donc quelques jours pour vous inscrire. Le début de la session du printemps sera le samedi 7 avril 2018. Alors, et si on s'éclairait avec des plantes?
Ah, bonne idée. Moi, j'ai toujours une plante avec moi. J'aimerais bien qu'elle m'illumine.
Oui, ce serait intéressant, n'est-ce pas? Alors, les trois articles que je vous lis, là, qui sont plus brefs, viennent de la revue Science et Avenir du mois de février 2018. Les revues françaises nous arrivent toujours un mois en retard. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas le mois de mars encore. Donc, lire le soir à la lueur d'un philodendron, ce que tu aimerais, Mathieu. Ou se promener la nuit dans des rues éclairées par des platanes. Nous, ce serait peut-être
des sapins,
des ormes, enfin, il y en a moins là, mais de ce type de feuillus. C'est ce que voudrait proposer une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology à Boston, aux États-Unis. Ils se sont mis en tête de modifier des plantes pour que leurs feuilles brillent dans la nuit. Pour cela, ils y ont introduit des nanoparticules de luciférine, une molécule bien connue des entomologistes qui fait briller les lucioles. Une intervention, rassurez-vous, qui ne nécessite donc pas de modification génétique. Hein? On est fiers d'eux. L'idée est de faire une plante qui fonctionne comme une lampe de bureau, une lampe qu'il ne sera pas nécessaire de brancher, explique Michael Strano, qui est l'un des chercheurs ayant participé à cette étude publiée dans la revue Nano Letters. Lors des premiers essais, les scientifiques sont parvenus à faire briller le végétal pendant 45 minutes. L'objectif étant de créer une plante qui reste lumineuse toute sa vie durant. Cette technologie pourrait aussi être utilisée comme source de lumière intérieure, de basse intensité ou encore pour transformer des arbres en lampadaires. Alors on a bien hâte qu'ils réussissent cet exploit. Une petite capsule linguistique de M. Guy Bertrand. Votre voiture a-t-elle un sac ou un coussin? On appelle sac gonflable ou coussin gonflable le dispositif de sécurité consistant en une enveloppe souple qui se gonfle d'air ou de gaz sous l'effet d'un choc afin de protéger les occupants d'une voiture. L'Organisme international de normalisation ISO privilégie l'emploi du terme sac gonflable. Toutefois, coussin gonflable est plus courant chez nous. On appelle également coussin gonflable le petit coussin qu'on souffle et qu'on ne peut utiliser dans la baignoire ou la piscine. Donc, le sac ou le coussin sont parfaitement synonymes. Mais lequel des deux termes les Français branchés préfèrent-ils? Ni un ni l'autre. Ils disent airbag.
Pourquoi je suis pas surpris?
On imagine bien, on avait Silver Santé tout à l'heure. Alors, chers amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Mathieu de m'avoir si généreusement accompagnée. Joyeuse Pâques à tous.
Mais oui.
Ne vous gavez pas trop de chocolat. Bonne semaine et au plaisir de vous retrouver à notre antenne jeudi prochain avec, bien sûr, Marie et Yvan en studio. Au revoir!